Bonjour à tous. On est heureux de se retrouver encore ce soir dans la maison du Seigneur pour entendre la parole de Dieu. Et nous allons ouvrir le Saint-Livre dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 11. Et on va lire un verset qui est connu, mais qui est connu par beaucoup de chrétiens, mais des fois, c'est une bonne chose de se rappeler certains versets que le Seigneur nous a donnés, afin que, non pas nous puissions les connaître ou les avoir par cœur, mais que nous puissions les pratiquer. Parce que c'est la pratique de la parole de Dieu qui nous amène plus loin. Vous savez, on peut savoir toutes sortes de choses. Peut-être il y a quelqu'un qui serait, par exemple, du bâtiment, qui sait comment faire un mur. Mais c'est une chose de savoir comment faire un mur. C'en est une autre de construire un mur. Vous êtes d'accord ? Je peux connaître la vérité, mais si je la mets pas en pratique, elle me sert à quoi? Non. Ce que l'on veut, c'est pas simplement connaître, mais c'est la mettre en pratique. Et donc, dans Matthieu, au chapitre 11 et au verset 25, il nous est dit, « En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu, ainsi, toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. » Le texte commence à ce moment-là où Jésus va prendre la parole et va louer le Père, le Seigneur du ciel et de la terre, pour une chose. Parce qu'il a caché des choses aux sages et aux intelligents, est-ce qu'il les a révélées aux enfants? La première chose que l'on voit dans ce texte, c'est qu'il y a besoin d'une révélation de Dieu. On voit qu'aux sages, les sages c'est qui? C'est ceux qui sont intelligents. Vous avez déjà vu des gens qui sont sages? Des gens qui ont beaucoup de connaissances. Des gens qui, au final, sont très 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 intelligents. Il nous est dit que Dieu a caché des choses aux sages et qu'il les a révélées aux enfants. Les enfants, c'est l'image de la simplicité. Vous êtes d'accord que si on fait la comparaison entre une personne très intelligente, très sage, et un enfant, on pourrait se dire, c'est le sage qui en connaît plus. Mais là, il nous est montré que Dieu veut révéler des choses à ceux qui ont un cœur comme un enfant, c'est-à-dire à ceux qui ont la simplicité de l'enfant. Vous avez vu, au verset 27, Jésus va dire « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Donc là, on voit la chose qui peut être révélée aux enfants et cachée aux sages, c'est le Père, c'est Dieu. Et vous savez, la Bible dit que la connaissance, elle enfle, mais c'est l'amour qui édifie. Et c'est une chose de pouvoir étudier les choses de Dieu, étudier de la théologie, par exemple, mais c'en est une autre de connaître Dieu. Voyez la différence ? Imaginez, je vous pose cette question, connaissez-vous Monsieur Macron? Qui connaît Emmanuel Macron? Est-ce que vous savez ce qu'il fait? Oui. Est-ce que vous savez quelle est sa coupe de cheveux? Oui, peut-être. Est-ce que vous savez combien il a d'enfants? Peut-être. Est-ce que vous savez comment s'appelle sa femme? Peut-être. Mais on va tous dire, oui, on le connaît. Mais qui connaît réellement Emmanuel Macron? Qui sait ce qu'il pense? Qui sait ce qu'il aime? Qui sait ce qu'il fait en ce moment? Qui sait ce qu'il fait quand il est dans le secret? On ne le sait pas. Parce que ce qu'on connaît, c'est des choses sur lui, mais on ne le connaît pas lui personnellement. Et vous savez, on peut connaître des choses sur Dieu sans connaître Dieu personnellement. Parce que pour connaître Dieu, on a besoin d'une révélation. Et lorsqu'on regarde dans le monde les plus grands théologiens, c'est-à-dire les personnes qui savent le plus de choses sur Dieu, on se rend compte que parmi les plus grands, il y en a certains qui ne croient pas en Dieu, ni en son existence. C'est-à-dire qu'ils étudient Dieu comme une science, ils sont très sages. Vous leur posez une question par rapport à la Bible, ils sauront vous répondre. Des questions pointues, et pourtant ils ne croient pas en Dieu. Et c'est une chose de connaître des choses sur Dieu, de connaître des choses par rapport à l'Église, de connaître la théorie, c'en est une autre, de connaître personnellement le Seigneur Dieu, de le connaître réellement. Jésus dira, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Et lorsqu'il utilise le mot connaître, qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, il ne parle pas de savoir des attributs à propos de Dieu, qu'il te connaisse, c'est-à-dire qu'ils aient une intimité avec Dieu. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est, connaissez-vous Dieu ? Peut-être certains vont me dire oui, mais la question que je vous pose réellement, ce n'est pas, est-ce que vous connaissez des choses à propos de Dieu ? La question que je vous pose, c'est, connaissez-vous réellement Dieu ? Avez-vous une relation avec lui ? En tout cas, il est clair que pour connaître Dieu, on a besoin d'une révélation de Dieu. À un moment, l'apôtre Paul, quand il parlera à une église, va dire, dans une prière, il va demander à Dieu qu'il illumine les yeux du cœur, afin que les Éphésiens, afin que l'église d'Éphèse puisse connaître les choses qui sont liées à Dieu. Donc on voit que sa prière va être que les yeux soient illuminés, afin de connaître. Et s'il n'y a pas une illumination du Seigneur, une révélation du Seigneur, oui, on pourrait étudier la Bible pendant des centaines d'années sans pour autant connaître Dieu. Mais même si on est simple, même si on a un cœur comme un enfant, une simplicité d'enfant, même si on n'a pas beaucoup de connaissances, même si on n'a pas beaucoup d'intelligence, même si on n'a pas des capacités mentales hors normes, vous savez, il y a des gens qui ont des QI, vous leur posez un problème de maths, nous ça nous mettrait une demi-heure à résoudre le problème, eux en 3 secondes ils savent la solution. Et bien même si ces personnes-là étudiaient la Bible, s'il n'y a pas une révélation de Dieu, ils ne peuvent pas avoir cette intimité avec Dieu. Donc nous avons besoin d'une révélation de Dieu. La question est, est-ce que je veux demander à Dieu cette révélation ? Est-ce que je veux continuer à venir à l'Église, à étudier la parole de Dieu ? Est-ce que je veux venir connaître plus de choses, plus d'attributs à propos de Dieu ? Mais où est-ce que je veux connaître personnellement le Seigneur ? C'est une question qu'on pourrait se poser. Vous savez, à l'époque, il y avait des personnes qu'on appelait des pharisiens. Les pharisiens, c'était des gens qui connaissaient par cœur, l'histoire montre qu'ils connaissaient par cœur les premiers livres de la Bible, la loi. Toutes les ordonnances de Dieu, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, ils connaissaient par cœur ces livres. Ils en connaissaient de plus en plus. Mais lorsque Jésus est venu, lorsque Dieu les a visités, ils ne l'ont pas reconnu. Et même, ils l'ont rejeté. Et vous voyez au final que l'important n'est pas d'étudier scolairement ou avec notre intelligence les saintes écritures, mais ce qu'il nous faut, c'est ouvrir notre cœur à la présence de Dieu et avoir dans notre cœur un véritable désir de connaître Dieu. Et je vous pose cette question, voulez-vous connaître Dieu ? Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez ? À un moment, Jésus dira aux pharisiens, mais vous sondez les écritures. Ça veut dire qu'ils allaient en profondeur. Vous savez, sonder, c'est quand on jette quelque chose pour connaître le fond, la profondeur d'un puits. Si je veux connaître la profondeur d'un puits, je lance une sonde. C'est une corde avec une pierre au bout. Et puis à un moment, quand ça touche le sol et que je remonte, je connais la profondeur. C'est ce qu'ils faisaient avec les écritures. Et Jésus dira que toutes les écritures rendaient témoignage de lui. Et pourtant, quand il était devant eux, ils ne vont pas le reconnaître. Ils vont même le rejeter. Ils ne vont pas l'aimer. Et c'est une chose de connaître, c'en est une autre d'aimer. La première question que l'on peut se demander, est-ce que je désire avoir une révélation de la part de Dieu ? En tout cas, la révélation, elle se fait au travers de la personne de Jésus. Si je veux connaître Dieu, il me faut connaître Jésus. À un moment, Jésus, on peut le lire, c'est dans Jean au chapitre... ne cherchez pas, je vais vous le lire pour vous. Dans Jean au chapitre 14, Jésus va dire, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu ? Montre-nous le Père. » On voit donc Jésus qu'il va dire, mais si vous me connaissiez, vous connaîtriez mon Père. Comment connaître réellement Dieu ? En connaissant Jésus. en regardant ce que Jésus a fait. La Bible nous dit, c'est dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 1er, les premiers versets, que Dieu a autrefois parlé à nos pères, c'est-à-dire aux Hébreux, de plusieurs manières, à plusieurs reprises, par les prophètes, et dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Dieu nous parle au travers de Jésus. Si je veux apprendre à connaître quelqu'un, ben, il me faut l'écouter. Si je veux apprendre à connaître Dieu, il me faut l'écouter. Si Dieu me parle au travers de son Fils Jésus-Christ, il me faut considérer ce que Jésus a fait, ce que Jésus a dit, afin de connaître Dieu. Si je veux connaître Dieu, il faut que je regarde ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a dit pour moi. Il y a beaucoup de personnes qui ont une image de Dieu, qui s'illusionnent, qui pensent que Dieu est de telle manière ou de telle autre manière. Les pharisiens pensaient que lorsque le Messie viendrait, lorsque Dieu allait les visiter, eux, ils s'attendaient à un roi puissant, un roi fort, un roi qui allait les délivrer de l'oppression romaine. Ils cherchaient un politicien, quelqu'un qui allait faire la guerre. Mais lorsque l'on regarde à Jésus, on voit un roi qui s'humilie et qui accepte de mourir pour ses créatures. Et lorsque l'on considère l'œuvre de la croix, lorsque l'on considère que le Dieu Tout-Puissant, le Roi des Rois, s'est humilié, est venu sur terre, a choisi de souffrir pour ses créatures, alors on connaît qui est réellement Dieu. Et on voit que Dieu n'est pas un Dieu méchant qui veut punir sa créature, mais c'est un Dieu qui a accepté de souffrir pour sa créature. Et lorsqu'on parle du salut, le salut ce n'est pas ce que les hommes, le prix que les hommes peuvent payer pour Dieu, ça c'est ce que la religion présente, c'est ce que les pharisiens présentaient. Ils disaient, mais si vous voulez être juste, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Ils utilisaient la loi, mais ils n'avaient pas compris la loi. Pourquoi ? Parce qu'ils ne connaissaient pas celui qui avait donné la loi. La loi avait été donnée parce que c'était des ordonnances qui étaient bonnes, qui étaient justes, qui étaient faites pour que l'homme soit heureux. Et lorsque Dieu donnera la loi, il dira, mais je les donne pour que tu sois heureux, que tu les pratiques et que tu sois heureux. Et eux, parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu, ils utilisaient la loi pour enfermer les gens et pour pour avoir une domination sur eux. Jésus leur dira, mais vous êtes des sépulcres blanchis. Vous paraissez beaux à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous êtes pleins de mauvaises choses. Vous nettoyez l'extérieur, mais d'abord nettoyez l'intérieur. Parce qu'ils avaient la loi, mais ils ne connaissaient pas celui qui avait donné la loi. Et lorsqu'ils ont été face à celui pour qui la loi existait, qu'il l'a donnée, ils ne l'ont pas reconnue. Tout ça pour dire que lorsque l'on regarde Jésus à la croix, alors on connaît qui est Dieu. Et on voit que Dieu nous aime. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu vous a aimé. Est-ce que vous savez que Dieu vous aime ? Et plus que vous dire qu'il vous aime, il l'a prouvé. La Bible nous dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu vous aime. Vous êtes aimé de Dieu. Et si je veux avoir cette révélation de qui est Dieu, il me faut connaître Jésus-Christ, connaître ses paroles. Lorsque l'on regarde donc dans le texte de base que l'on a pris, donc on voit qu'on a besoin d'une révélation et que c'est le Fils qui nous révèle le Père. Mais voici ce qu'il va dire. Donc, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Est-ce que des fois, ce n'est pas ce dont on a besoin ? Besoin de repos ? Non ? Jésus va dire, venez à moi, venez à moi. Il ne va pas dire, venez à l'église. Il ne va pas dire « venez à l'église pentecôtiste ». Il ne va pas dire « venez voir le pasteur ». Il ne va pas dire « faites ceci ou faites cela ». Il va dire « venez à moi ». Est-ce que vous savez que ce soir, chacun d'entre nous, nous avons la possibilité de venir à Jésus-Christ ? Et si nous pouvons venir à Jésus-Christ, c'est parce que lui d'abord il est venu jusqu'à nous. Si Jésus nous dit « venez à moi », s'il nous donne cette invitation, il nous dit, mais venez ! Mais c'est qu'il est accessible. Des fois, on a des faux raisonnements, vous savez. On peut se dire, bah non, moi je suis trop ceci, je suis trop cela, je suis un trop grand pécheur. Je ne peux pas m'approcher de Dieu. Mais que dit Dieu ? Dieu dit, venez à moi. Dieu n'invite pas des gens parfaits à venir à lui. Là, il va dire, Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Est-ce que des fois on ne peut pas être fatigué et chargé? Eh oui, des fois on peut être fatigué parce qu'il y a des soucis. Des fois on peut être fatigué parce qu'il y a des tracas. Des fois on peut être fatigué parce qu'on a passé des moments qui sont difficiles. Des fois on peut être fatigué parce qu'on nous a chargés. Mais Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ça veut dire que si chacun d'entre nous, autant chargé qu'on puisse être, même si on était l'homme le plus chargé du monde, si on va à Jésus-Christ, et je le répète, non pas à l'Église, si on va à Jésus-Christ, il nous décharge de nos fardeaux. Mais comment ça se fait qu'il nous décharge de nos fardeaux? Ben c'est parce que c'est lui qui les a portés. Et vous savez que le plus gros des fardeaux, c'est lequel? Ben c'est celui du péché. Mais la Bible nous dit, c'est écrit dans Ésaïe, au chapitre 53, que le châtiment qui nous donne la paix, on pourrait dire le repos, est tombé sur lui. Et qu'il a été chargé, qu'il s'est chargé de nos iniquités, de nos péchés. Oui, si je peux être déchargé, c'est parce que lui s'est chargé. Et c'est pour ça qu'il faut venir à lui. Est-ce que vous connaissez quelqu'un d'autre que Jésus-Christ qui soit mort pour vous, pour vos péchés? Connaissez-vous un homme juste qui a accepté de payer le prix pour vous? Connaissez-vous un Dieu autre que Jésus-Christ qui a accepté de venir et de prendre le poids de nos péchés sur ses épaules au travers de cette croix et accepter d'y mourir dessus pour qu'on puisse être délivré? Non, il n'y a que lui. La Bible nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Parce que c'est le seul, c'est Jésus-Christ, le seul, l'unique, le vrai Dieu qui est venu et qui est mort pour nous à la croix. Alors peut-être que vous dites, oui, mais j'ai péché, j'ai fait ça. Mais Christ a payé pour ça. Il nous est dit dans la Bible que le sang de Jésus-Christ nous pardonne et nous purifie de tout péché et de toute iniquité. Et il n'y a rien que vous ayez pu faire qui soit trop lourd. Il n'y a pas de culpabilité qui soit trop grande que Christ n'ait pas porté à la croix et n'ait pas vaincu. Le seul péché où on ne peut pas être pardonné, c'est celui du blasphème dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire d'attribuer à l'œuvre de Jésus-Christ l'œuvre de Satan. C'est-à-dire que ce que Jésus avait fait, c'était diabolique. Alors ben, c'est sûr, si on considère que ce que Jésus a fait est mal, on ne va jamais être sauvé. Comprenez bien. Les pharisiens, quand ils voyaient Jésus œuvrer, ils disaient « c'est l'œuvre de Satan ». Vous comprenez bien que si on considère que ce que Jésus a fait, c'était l'œuvre de Satan, on ne peut pas être sauvé. Mais hormis ce péché-là, quel que soit le péché, quelle que soit la culpabilité, parce que vous savez, quand on a fait le mal, qu'on le veuille ou non, il y a une culpabilité. Et quand on a beaucoup fait le mal, c'est comme si on avait un gros fardeau sur les épaules. Quand on a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait le mal, on a un gros, gros, gros fardeau sur les épaules. Mais quel que soit le poids du péché, Jésus-Christ a payé le prix. Il y a cette parabole, vous savez, d'un homme qui devait énormément d'argent à un autre homme. Et cet homme lui a remis sa dette. Ben, c'est exactement l'image du pardon. On avait un énorme poids de culpabilité. Et ce poids, c'est Jésus-Christ qui l'a pris sur lui à la croix, afin que nous puissions en être déchargés. Et ce soir, quel que soit le poids du péché, vous pouvez en être déchargés parce que Jésus-Christ a payé le prix. Et là où ce que Jésus nous demande, c'est de nous repentir. Nous repentir. Vous savez, l'évangile, le message premier de l'évangile, c'est la repentance. Vous savez, quand Jean-Baptiste va prêcher, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, mais repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Quand Jésus va prêcher, il nous a dit qu'il va commencer son message en disant aux hommes, repentez-vous. Après que Jésus soit remonté au ciel, et que Pierre va prêcher à la Pentecôte, il va dire aux hommes, mais repentez-vous. Quand Paul il va résumer son ministère, il va dire, mais j'ai prêché la repentance et la foi aux païens. Dieu ne dit pas payer le prix, il dit repentez-vous. Et vous savez, la repentance, ce n'est pas la pénitence. Vous savez, c'est quoi la différence? Et certaines religions ont dit qu'il faut faire pénitence. La pénitence, c'est moi qui paye pour mes péchés. J'ai fait un gros péché, il faut que je souffre beaucoup. Mais ça, ce n'est pas du tout biblique, c'est même diabolique. Celui qui a payé pour nos péchés, c'est Jésus-Christ à la croix. Ce que Dieu nous demande, ce n'est pas de payer le prix de nos péchés. Lui, il l'a fait. Ce qu'il nous demande, c'est de nous repentir, c'est de faire un choix, de renoncer au péché, à ce qui a crucifié Jésus à la croix, est d'accepter le salut, le pardon, mais aussi de ne plus vivre avec ce péché, mais d'y renoncer. Et là aussi, il faut demander à Dieu. À un moment, Pierre dira que lorsqu'il verra que Dieu va bénir les païens, les non-juifs, il va dire, donc Dieu a accordé la repentance aux païens. C'est-à-dire que Dieu a donné la possibilité aux païens, donc aux juifs et aux non-juifs, de se repentir. Est-ce que vous savez que vous avez la possibilité de vous repentir? Des fois, pareil, il y a un faux raisonnement. Certaines personnes se disent, non, moi je ne peux pas. Mais bien sûr que si, vous pouvez. Si Dieu vous dit repentez-vous, c'est que vous pouvez le faire. Il ne va pas vous demander de faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Si Dieu vous dit venez à moi, vous pouvez le faire. Est-ce que quelqu'un se verrait devant Dieu, qui l'appelle à venir, lui dire non, je ne peux pas? Si, vous pouvez. Et lorsque dans la Bible, on voit un homme qui était possédé par une légion de démons, ce n'est pas la légion de démons qui l'ont empêché de venir à Jésus-Christ. Si vous voulez venir à Jésus-Christ, personne ne peut vous en empêcher. Pas même le diable. Jésus dira qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Et si vous voulez venir à Jésus-Christ, si vous demandez cette révélation, si vous vous repentez, c'est-à-dire que vous renoncez au péché, vous faites un choix de renoncer au péché et de choisir de vivre une vie avec Jésus dans votre vie, alors Dieu vous bénira. Vous n'avez pas besoin d'attendre ce soir, tout à l'heure, vous pouvez le faire maintenant. Il suffit de faire cette prière dans votre cœur. Donc Jésus dira, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et effectivement, qui n'a jamais fait cette expérience de venir à l'église, chargé, fatigué, et de repartir déchargé et renouvelé dans ses forces? Il nous est dit, c'est dans Ésaïe chapitre 40, qu'il renouvelle les forces de ceux qui se confient en lui. Et lorsqu'on se confie en Dieu, on est déchargé de nos fardeaux et on est renouvelé dans nos forces, dans notre courage. Mais il ne s'arrête pas là. Il va dire, donc venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Donc on voit qu'il y a plus que simplement venir à Jésus et être déchargé de notre fardeau. Jésus va dire, prenez mon joug. Vous savez ce que c'est que le joug? Le joug, c'était une pièce de bois qui servait à attacher deux animaux ensemble. Et puis après, une fois qu'elles étaient attachées ensemble, elles servaient à tracter un fardeau, à tracter une charrue, à tracter un char, etc. Ça s'appelait un joug. C'est quoi le joug? Le joug, c'est l'image de l'union. Vous savez, c'est une chose de venir à Jésus, puis repartir. On est rechargé, on revient à Jésus, on est déchargé, on repart, etc. Et des fois, pour celui qui ne prend pas le joug, c'est un peu sa vie. C'est une succession de peines, de blessures, et puis ensuite Dieu le guérit. Mais il s'en va. Alors il est reblessé, il est rechargé, puis il revient, etc. Et ça fait une vie en dents de scie. Qui n'a jamais connu ça? Mais Jésus dit, prenez mon joug. C'est-à-dire qu'il ne demande pas de venir avec lui, le voir. Il nous demande de nous attacher à lui. Est-ce que vous voyez la différence? Il y a une différence entre côtoyer Jésus, de temps en temps, et s'unir à lui. S'unir à lui, c'est-à-dire choisir de s'attacher à lui. Et vous savez, on peut venir à l'église, on peut côtoyer Jésus sans s'attacher à lui. Vous pouvez venir à l'église et jamais de votre vie vous attacher à Jésus-Christ. Mais vous pouvez vous attacher à Jésus-Christ et ne jamais être séparé de lui, que ce soit à l'église, que ce soit dans votre famille, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, et rester uni à lui. Et en fait, on a le choix. On a le choix, et c'est vrai qu'on peut venir à Jésus-Christ, et si vous venez à Jésus-Christ, vous faites la bonne part. Vous recevrez la paix et le repos. Mais si vous vous attachez à Jésus-Christ, alors là, il y a une paix qui est beaucoup plus profonde. Parce que cette paix, elle ne viendra pas juste d'une action, du fait qu'il va vous toucher, qu'il va intervenir dans votre vie ponctuellement, mais vous aurez une paix qui est plus profonde parce qu'elle vient de sa présence même. Et vous savez, c'est une chose que d'inviter Jésus à nous visiter, c'en est une autre de demander à Jésus de demeurer avec nous. Et tout à l'heure, c'est ce que disait Jonathan, le texte qu'il a lu. Il y a ce texte dans l'Apocalypse où Jésus frappe à la porte Pourquoi? Parce qu'il veut rentrer. La question est-ce que vous voulez que Jésus demeure avec vous? Parce que si vous choisissez de vous attacher à lui, alors là, ça ne sera pas simplement une paix de temps en temps. Ça sera une paix beaucoup plus profonde. Parce que ce que vous choisirez, c'est de vous attacher à lui. Et ensuite, il dit, « Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. » Oui, il y a le joug, c'est s'attacher à lui, mais c'est aussi choisir d'obéir à Jésus-Christ. Et c'est vrai que si je viens à lui, mais que j'écoute jamais ce qu'il me dit, que je ne veux pas faire ce qu'il me fait, ce qu'il me demande de faire, comment est-ce que je peux avoir la paix? Les ordonnances de Jésus, ses commandements, c'est pour ma paix. Ce que Dieu nous dit, c'est pour notre bien. S'il nous dit de ne pas convoiter la femme de son prochain, pensez que c'est pour vous faire du mal? Mais non, c'est pour vous faire du bien. S'il vous dit qu'il ne faut pas voler, mais c'est pour vous faire du bien. S'il vous dit qu'il ne faut pas mentir, c'est pour vous faire du bien. Parce que lorsqu'on ment, on se fait du mal. Nous, on pense qu'on se protège, mais en réalité, on se blesse. On accumule de la culpabilité au-dessus de nos épaules. On fait du mal à notre prochain. On trahit quelqu'un. Si Dieu nous demande de faire ces choses, c'est pour notre bien. Et si à un moment, Dieu nous dit des choses pour notre bien et qu'au final, nous, on fait tout le contraire, qu'est-ce qui va se passer? On va se faire du mal. C'est logique. Si je veux vraiment avoir une paix profonde et durable, il faut que je puisse recevoir les instructions de Dieu. C'est une chose que d'entendre. C'est une chose de dire oui, c'est vrai. C'en est une autre de choisir de se conformer à ce que Dieu me dit. Ben, c'est la conversion. À un moment, Jésus dira, repentez-vous et convertissez-vous. Se repentir, c'est renoncer au péché. Se convertir, c'est choisir Jésus pour maître et choisir de me soumettre à sa volonté. Ce n'est plus moi qui règne sur ma vie. Je descends de mon petit trône et je laisse le grand Dieu, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, prendre sa place sur le trône de ma vie, parce qu'il a payé le prix et qu'il en est digne. Et Jésus dira, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Et ça, c'est cette image du fardeau que Dieu met sur nos cœurs. Oui, il y a le fardeau du péché qu'il nous enlève, mais lorsque l'on s'unit à lui, lorsque l'on s'attache à Jésus, lorsque l'on reçoit ses instructions, alors il y a un fardeau qui n'est pas écrasant. Il y a un fardeau qui n'est pas qui n'est pas écrasant, mais c'est un fardeau, c'est celui des âmes. Et au final, lorsque l'on voit ce que Jésus a fait, quelle était son œuvre, quel était son but, c'était de sauver les âmes. Et lorsque l'on s'unit à Jésus-Christ, lorsqu'on suit ses instructions, il nous met à cœur le salut des âmes. Et au final, il nous met au travail pour contribuer à ce que les âmes soient sauvées. La question est-ce que je veux non pas connaître ce verset, mais vivre ce verset? Est-ce que je veux venir à lui? Est-ce que je veux m'unir à lui? Est-ce que je veux le choisir comme Seigneur, me conformer à ses instructions? Et est-ce que je veux accepter qu'il mette dans mon cœur ce doux fardeau, ce fardeau léger? On va courber nos têtes et on va demander au Seigneur sa grâce. Merci Seigneur pour ta présence, merci pour ta parole, parce qu'elle est la vérité. Merci parce que Seigneur, tu nous aimes, et merci parce que au travers de l'œuvre à la croix, au travers de ta personne Jésus-Christ, nous pouvons connaître le Père et connaître à quel point tu nous aimes et à quel point le prix que tu as payé pour nos péchés est élevé, Seigneur. Et nous voulons te dire merci pour la croix. Merci parce que tout le fardeau de nos péchés, c'est toi qui l'as pris à la croix. Merci Seigneur parce que même les autres fardeaux, les inquiétudes, les peurs, Seigneur, tu te proposes de nous en décharger. Seigneur, ce que nous voulons, ce n'est pas simplement ce soir venir dans ta présence et recevoir cette paix, mais nous voulons plus que cela nous attacher à toi et te choisir comme Seigneur, comme celui qui gouverne et qui dirige nos vies. Oui Seigneur, toutes tes instructions, tout ce que tu dis, c'est pour notre bien. Seigneur, merci pour cette grâce, merci pour cette possibilité encore de nous unir à toi, Seigneur, et de continuer notre vie, non pas simplement en te côtoyant, mais de continuer notre vie en demeurant dans ta présence, Seigneur. Et pour cela, nous voulons te dire merci. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Amen.